Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 19 février. Emmanuel Macron en visioconférence hier avec l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche pour annoncer un plan destiné à mieux protéger les organisations face à la menace numérique. Le Covid-19, le CHU de Lyon lance 2 essais cliniques sur les vaccins Pfizer et Moderna destinés à mieux évaluer la réponse immunitaire chez les personnes âgées. Pendant ce temps, les hospitalisations sont reparties à la hausse. 820 patients hospitalisés dans le Rhône, dont 46 admis en 24 heures. Les festivals cet été devront se tenir en configuration assise avec une limite de 5000 spectateurs en raison de la crise sanitaire. Dans cette édition, nous recevrons 2 acteurs du monde de la culture et du tourisme qui réclament la réouverture des lieux culturels. Gilles Champion, représentant du théâtre amateur, il vient de lancer une pétition, et le directeur du Palais Idéal du Facteur Cheval dans la Drôme. L'ancien cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, définitivement relaxé, mais il pourrait avoir à verser d'éventuels dommages et intérêts. 2 femmes ministres à Lyon aujourd'hui, la ministre des Sports et la ministre chargée de la Ville. Direction pour elles, Lyon et Vaux-en-Velin.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Emmanuel Macron a annoncé lors d'une visioconférence avec l'hôpital Nord-Ouest un plan destiné à mieux protéger les organisations face à la menace numérique. Outre la création d'un cybercampus réunissant 1000 professionnels de la cybersécurité, le chef de l'État a annoncé un renforcement de la coopération entre pays et entre services afin de muscler les systèmes de défense. Macron souhaite doubler le nombre d'emplois dans la cybersécurité. Il a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros pour la recherche des Dès la rentrée scolaire, donc lundi, un menu unique sans viande sera mis en place dans les cantines des écoles de la ville de Lyon pour pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas. L'opposition de droite est montée au créneau, protestant contre ce qu'elle qualifie de tour de force de la municipalité pour imposer son idéologie aux enfants lyonnais. L'adjointe à l'éducation, Stéphanie Léger, répond qu'il ne s'agit en aucun cas d'un passage à marche forcée vers des menus végétariens. La mesure sera appliquée seulement jusqu'aux vacances de Pâques. La nouvelle distanciation de 2 mètres allonge le temps du repas de midi. Le menu unique sans viande avait déjà été expérimenté entre mai et juillet après le déconfinement, à une époque où Gérard Collomb était encore maire de Lyon. Le CHU de Lyon lance 2 essais cliniques sur les vaccins Pfizer et Moderna destinés notamment à mieux évaluer la réponse immunitaire chez les personnes âgées. Les HCL recherchent des volontaires de plus de 75 ans. Les hospitalisations sont reparties à la hausse hier avec 820 patients hospitalisés dans le Rhône, 11 de plus en 24 heures, dont 46 patients admis hier. La reprise est particulièrement forte en réanimation, avec 158 patients hospitalisés, 9 de plus, dont 14 nouveaux patients admis ces dernières 24 heures. Une diminution des retours à domicile et du nombre quotidien de décès explique en partie cette reprise. Dans quelques instants, nos invités, 2 acteurs du monde de la culture et du tourisme qui réclament la réouverture des lieux culturels.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus. Et donc plus vite elle disparaîtra. Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour Gilles Champion.
Bonjour.
Vous venez de créer le comité d'initiative citoyenne, artistes, spectateurs, usagers. Quel est exactement le but de cette structure ?
Eh bien, c'est très simple. Nous sommes tous des comédiens, amateurs ou professionnels, et nous attendons l'arme au pied, la réouverture des salles de spectacle qui devait avoir lieu le 15 décembre. Rien n'arrive, pas de plan de prévu, aucune date, le temps passe, et donc ce week-end, j'en ai eu assez d'attendre. J'ai pris l'initiative de rassembler quelques amis autour d'un texte très simple qui dit « On demande la réouverture immédiate des lieux de spectacle ». Et comme toute pétition doit être destinée à quelqu'un, eh bien, nous l'enverrons au préfet, puisque le préfet représente le gouvernement, pour lui demander la réouverture des lieux culturels, de tous les lieux culturels. Alors, je me limite au Rhône parce que j'ai pas l'ambition d'en faire plus.
Alors, une réouverture, oui, mais à quel prix ? Celui de la reprise de la progression de la pandémie ?
Alors, les protocoles sanitaires ont été expérimentés à partir du mois de juin dernier. Beaucoup de troupes, beaucoup de spectacles de juin jusqu'à fin octobre, en respectant un protocole simple, connu de tous, partagé y compris par les spectateurs. De notoriété publique, il a été dit, redit, re-redit que les lieux de spectacle ne présentaient pas de risque supplémentaire. Donc l'argument de la pétition est très simple. Du moment que ça ne crée pas de risque supplémentaire, réouvrons avec, en appliquant les protocoles recommandés, connus, réouvrons les lieux. Parce que, inversement, la fermeture des lieux présente l'immense inconvénient de perturber, enfin, d'être une gêne considérable pour une partie de la population qui n'a pas de nourriture spirituelle au sens très très large, ce qui est un facteur négatif. Dit autrement, aller rire ou avoir une émotion partagée pendant un spectacle participe de la bonne santé de la population. Et ça dure depuis 2500 ans, depuis que les Grecs ont inventé le théâtre.
Tout le monde du théâtre attend cette réouverture, aussi bien les grandes scènes comme les Célestins par exemple, mais aussi le théâtre amateur. Là, ça vous concerne particulièrement, parce que vous aviez quelque chose de prévu, vous, en cette période de l'année.
Moi, en tant que troupe Théâtre Parker et Compagnie G, parce que j'ai deux troupes, on avait prévu fin janvier une création de la pièce de François Ozon, Grâce à Dieu. Bon, ben, on l'a congelé en attendant. Ensuite, on avait en avril deux productions que nous ne savons pas si nous allons faire. Et c'est un constat partagé par les dizaines et des dizaines de troupes et groupes, au sens large, hein, artistiques amateurs, qu'ils soient chorale, théâtre, danse ou tout ce que vous voulez, avec un effet secondaire qui est terrifiant. C'est qu'aujourd'hui, le monde associatif, culturel, mais sportif, c'est la même chose. Mais pour le culturel que je connais bien, on est environ à 50 à 60% de réadhésion, que ce soit collectif ou individuel. La crise latente de la gouvernance des associations qui existaient avant est devenue patente, c'est-à-dire les anciennes équipes sont découragées. Et donc, on va au-devant d'un tsunami de désorganisation du tissu associatif avec des conséquences que je ne sais même pas estimé aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a un effet, je dirais, à court terme, et puis un autre effet qui aura lieu un peu plus tard et que l'on ne ressent pas forcément aujourd'hui.
Alors pour l'instant, on ne le ressent pas, puisqu'on est tous congelés. Mais on le voit bien, nos amis sportifs nous ont dit 50%. Nous, dans le théâtre amateur, que ma fédération, que je connais bien, on est à 60% de réadhésion collective. Et une troupe, un groupe, une structure amateur ou professionnelle qui n'a pas produit depuis un an et demi, hein, puisqu'en gros, ça nous a saisi en mars 2020, quelles vont être les conséquences? Aujourd'hui, le mouvement associatif qui regroupe l'ensemble de toutes les structures associatives au niveau aura, on est tous à environ à 50% encore une fois, hein, avec, j'insiste beaucoup, à la crise des gouvernances. Qui va reprendre des associations qui ont morflé, pour parler un peu plus simplement, avec des pertes de compétences, des pertes financières également, puis des pertes de motivation.
Jules Champion, comment on fait pour apporter sa signature à votre pétition?
Alors, comme on vit dans un monde extrêmement compliqué en ce moment, j'ai pas trouvé d'autre solution que de dire aux ceux qui sont d'accord d'envoyer un mail à mon mail personnel qui est Gilles Lucien Champion tout attaché en minuscule @gmail.com en précisant nom, prénom, qualité, ville et puis le mail et puis ça suffira comme signature à cette pétition que j'ai largement diffusée sur les réseaux sociaux, hein, et qui pour les auditeurs est très simple, hein, qui dit tout a été dit sur les protocoles sanitaires, etc., et qu'on ne créerait pas de clusters supplémentaires. A contrario, on sait que l'absence d'art vivant, de spectacle vivant est négatif et mauvais pour la santé publique, puisque c'est reconnu que ça fait du bien d'aller rire ou de voir des films, etc. Donc on demande au préfet la réouverture. Voilà, très simplement. Faut faire simple dans la vie.
Merci Jules Champion.
Merci Gérald.
Et puis notons que les festivals cet été devront se tenir en configuration assise avec une limite de 5000 spectateurs en raison de la crise sanitaire. C'est ce qu'a annoncé hier Olivier Véran. Bonjour Frédéric Legros.
Bonjour.
Directeur du Palais Idéal du Facteur Cheval. Alors d'abord, rappelez-nous un petit peu ce qu'est le Palais Idéal pour ceux qui ne connaîtraient pas encore.
Le Palais Idéal du Facteur Cheval, c'est un lieu extraordinaire qui se trouve à Hauterive, dans la Drôme des Collines, à 1h10 de Lyon environ. Extraordinaire puisqu'il a été construit par un seul homme pendant 33 ans et est devenu aujourd'hui une référence mondiale. Un chef-d'œuvre qu'on vient visiter de très loin, qui peut avoir comme ça l'aspect du temple d'Angkor ou d'un temple asiatique, mais avec une multitude de détails, de références, et construit par un facteur, donc le facteur cheval, pendant 33 ans, donc de 1879 à 1912.
Et on peut faire un petit parallèle également pour ceux qui connaîtraient avec le jardin Rosemire, par exemple, à la Croix-Rousse.
Oui, exactement, tout à fait.
Alors, on est là pour parler aujourd'hui de votre 114e jour de fermeture. Nous sommes vendredi et 114 jours de fermeture pour le Palais Idéal du Facteur Cheval. Quelles sont les conséquences de cette fermeture ?
sont forcément très lourdes, puisque déjà le Palais Idéal vit sur ses recettes propres. On n'est pas un lieu qui est subventionné, sauf pour les restaurations sur le bâtiment. Une programmation qui a totalement explosé. On avait l'an dernier des concerts qui ont déjà été annulés, qu'on espérait reporter cette année, qui n'auront peut-être pas lieu, on ne sait pas. On présentait une exposition de Robert Doisneau et Simone Fatal. Elle a été visible pendant un mois et elle a fermé ses portes. C'est très compliqué, mais comme ça l'est pour tous les lieux culturels et touristiques partout en France, c'est vrai qu'en plus le palais, au-delà de lui-même, fait vivre toute une région. Et aujourd'hui, que ce soit les hébergeurs, bien sûr les restaurants sont fermés, mais tout est là.
Comment alors vous avez écrit à Roselyne Bachelot pour réclamer une réouverture du site. Pourquoi et comment ça peut se faire selon vous?
Le fait est que le monument, au-delà du musée et des salles d'exposition, le monument est entièrement à l'extérieur. C'est vrai que les risques paraissent un peu plus limités et que même aujourd'hui, en période de vacances scolaires, on a des gens qui pensent qu'ils peuvent visiter le palais parce qu'il se trouve en plein air et en extérieur. Il y a un paradoxe aussi où des galeries privées peuvent présenter des expositions actuellement et je ne parle pas des lieux commerciaux et autres, et que le palais idéal, encore une fois, en plein air, lui ne peut pas être visité. Par ailleurs, quand après le premier confinement, on avait bien sûr mis en place des règles très strictes, que ce soit sur la jauge, bien sûr le port du masque qui a tout le temps été obligatoire depuis la réouverture, un sens de circulation dans le palais permettant que les gens ne se croisent pas, et on est bien sûr tous dans l'idée de pouvoir même réadapter les jauges pour que le palais puisse être réouvert au public. Et certains lieux comme le jardin du musée Rodin, comme les jardins de Versailles sont ouverts au public et on pourrait penser que le palais idéal pourrait l'être également.
En quelque sorte un traitement de faveur, comme par exemple pour certaines également galeries commerciales, hein, je pense notamment au village qui a pu rester ouvert parce que justement c'était des structures qui étaient ouvertes.
Totalement, totalement. Et puis quand on voit actuellement dans supermarchés ou autres ou centres commerciaux les flots de personnes qu'il peut y avoir, je serais très heureux qu'il y ait autant de monde le week-end dans un musée ou dans un centre d'art même en période normale, mais ça n'arrivera jamais. Donc le paradoxe est un peu bizarre.
Quelles mesures vous envisagez de mettre en place si tant est que la ministre accepte votre proposition?
Ça jouera principalement sur le nombre de visiteurs en même temps et la jauge qu'on appliquera. Jusqu'à présent, on s'était basé sur les jauges du musée, puisque le parc, c'est un peu ridicule de se baser sur la taille entière du parc. On pourrait arriver à 400 personnes sans problème en même temps, mais on ne le fera pas comme ça. Par contre, effectivement, limiter le nombre de personnes qui peuvent entrer en même temps dans le palais pour permettre de garder des distances de sécurité qui soient viables et qui n'empêchent absolument pas la visite.
L'absence de visibilité sur l'avenir, je suppose, vous handicape également dans votre activité, dans l'organisation de la saison?
Totalement. Il y a des projets qui ont déjà été annulés deux fois, puis remis en place et qui sont une troisième fois en suspens. C'est très compliqué de pouvoir se projeter. Tout se décale. On a, par exemple, pour l'ouverture qui était pensée pour tous les lieux le 15 décembre, on avait lancé un nouveau projet, une petite exposition qu'on avait conçue avec Agnès B. Elle n'a jamais vu de visiteurs depuis le 15 décembre. Et forcément, tout se décale et c'est très compliqué. Par exemple, dans le cas des concerts, qui est un événement qui est toujours très attendu à Autriche, actuellement, je ne sais absolument pas si je pourrais les programmer.
Merci Frédéric Legros, directeur du Palais Idéal du Facteur Cheval dans la Drôme à 1 h et quelques de Lyon.
Merci beaucoup.
En bref, le reste de l'actualité, le parquet général de la Cour de cassation est favorable à une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ayant relaxé le cardinal Philippe Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Le pourvoi doit être examiné à l'audience le 17 mars. Il a été formé par les seules parties civiles. La relaxe est définitive sur le plan pénal, mais l'affaire peut être renvoyé devant une cour d'appel aux fins de statuer au civil sur d'éventuels dommages et intérêts réclamés au prélat. La ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, et la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay, sont en déplacement à Lyon et Vaux-en-Velin ce vendredi. Première étape, sport dans la ville. L'association d'insertion par le sport, fondée en 98 à la Duchère, accompagne plus de 7000 jeunes dans le pays à travers une quarantaine de centres. Les deux ministres iront ensuite à Vaux-en-Velin pour là aussi promouvoir les initiatives d'insertion par le sport. Ce déplacement est l'occasion de rappeler les actions en faveur des 1500 quartiers prioritaires décidées lors du comité interministériel des villes fin 20 janvier. Du 8 mars au 21 mai, Lyon va accueillir la formation itinérante Cuisine Mode d'Emploi, école de la seconde chance fondée par le chef Thierry Marx. Cette promotion lyonnaise est parrainée par le chef triplement étoilé Régis Marcon. Pendant cette session gratuite qui se déroulera à l'Hôtel Dieu, 10 stagiaires sélectionnés sur leur motivation apprendront les bases de la cuisine. La formation est destinée aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification, bénéficiaires de RSA, personnes placées sous main de justice ou réfugiés statutaires. Seule condition, être majeur, en recherche d'emploi et maîtriser à minima la langue française et les opérations mathématiques de base. Enfin, football en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sera seulement privé de Marcelo, blessé contre Montpellier pour défier Brest à 21h dans le Finistère. Les Lyonnais ont pour objectif de rattraper les points perdus contre les Héraultais. Je vous rappelle cette défaite des Lyonnais 2-1. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne. En attendant, passez un bon week-end, mais restez prudents.